Salut à tous les ornithos et bienvenue de nouveau dans votre émission Carrément Rétro et présentée par votre serviteur Johan Sega. Jingle. Lors de notre dernière émission, nous nous étions arrêtés à l'aube de l'arrivée du CD-ROM dans le milieu des consoles et des jeux vidéo de salon. La technologie, bien entendu, doit évoluer. Nous sommes en 1991. L'extension Mega CD, baptisée Sega CD, aux USA est lancée. C'était difficile de maîtriser le système de stockage sur disque optique au début, nous avoue Tom Kalinski. Les développeurs ont mis le temps, mais ils ont alors dû basculer sur le 32X, une tentative de faire passer la Mega Drive au 32 bits, et c'était une erreur. Tout de même, 664 000 unités de cette extension seront vendues dans le monde. Le Sega CD, pour lui, a permis de nous préparer à la Saturn, explique Tom Kalinski. C'est pourquoi, au départ, Sony, vous entendez bien Sony, était avec nous pour voir ce qu'on pouvait faire avec ce support. La Saturn est en développement depuis 1992, sous la supervision d'Hideki Sato, directeur de Sega et directeur délégué de la recherche et du développement. Mais sa sortie est précipitée. Sega of America veut retarder la sortie de la Saturn d'un an. Mais Tom Kalinski doit monter sur scène à l'Electronic Show, dit E3, en 1995, pour annoncer au monde qu'au même moment, la console est installée sur les étals. C'est alors que Sony porte le coup de grâce. La Saturn coûte 399$ de l'époque. Le patron de Sony monte sur scène et se contente d'annoncer au même moment 299$ game over pour Sega. La Saturn se vend tout de même à 200 000 exemplaires au Japon. En une semaine, grâce au populaire Virtua Fighter. Rappelez-vous ce jeu de baston en 3D. La machine accueille également la fine fleur des jeux 3D de Sega en arcade, mais s'avère excessivement compliquée à programmer et coûteuse à produire. Sega s'embourbe. Tom Kalinski quitte la société, remplacé par Bernard Stolar, ex-directeur de l'exploitation chez Sony. Et oui, comme quoi, rien ne s'invente. Il chapeaute la sortie à son tour des titres comme Night into Dream, superbe jeu, il faut le dire, dans lequel vous pilotiez un personnage tel un spationaute dans la Station Spatiale Internationale, Panzer Dragoon Saga, une simulation de dragon qui nous est vraiment restée à tous dans le cœur, et Guardian Heroes. Convaincu qu'une poignée de triple A, comme il dit, vaut mieux qu'une pelletée de shovelware, mais les dégâts de la PlayStation sont irréparables. Sega a besoin d'une nouvelle machine pour revenir en jeu. À ce moment-là, deux équipes différentes, un appelé la ceinture blanche au Japon et l'autre appelé la ceinture noire aux USA, travaillent en secret sur des prototypes séparés de cette nouvelle console. Les ingénieurs japonais l'emportent à la grande joie du directeur du développement hardware de Sega Japon, Hideki Sato. Mais les problèmes juridiques surviennent du côté des sociétés qui fournissent les processeurs. Rien n'est simple. Sur le papier, la Dreamcast, baptisée à l'origine Katana, a tout pour plaire. C'est la toute première console 128 bits avec fonctionnalité en ligne. Elle est lancée à peu près en même temps que le système d'arcade dit Naomi, très similaire, avec des jeux comme The House of the Dead 2 et Dynamite 98. Rappelez-vous ce jeu où il fallait dégommer des zombies avec des flingues. Les observateurs sont optimistes, d'autant que des studios tiers de talent ont signé avec Sega. Bizarre Création développe notamment Metropolis Street Racer en exclusivité sur la Dreamcast, ce magnifique jeu de simulation de conduite. Les démos techniques présentées à l'Electronic Show laissent entrevoir un Sonic des plus impressionnants également. La Dreamcast est lancée le 27 novembre 1998 au Japon, avec une semaine seulement de retard. Ce qui ne l'empêche pas de se vendre à 150 000 unités en un jour. La console sort le 9 septembre 1999 aux USA, avec un demi-million d'unités écoulées en deux semaines et un catalogue de 17 jeux. Le tour de l'Europe dont la France vient le 14 octobre de la même année avec un succès équivalent. Les joueurs adorent la Dreamcast qui accueille des hits comme Crazy Taxi, Virtua Tennis, Street Fighter 3, Resident Evil, Code Veronica, Soul Calibur ou encore l'indépassable Shenmue. Certains éditeurs sont cependant absents comme Electronic Arts qui veut y développer des jeux de sport en exclusivité. Mais Sega lui préfère Visual Concept, un rachat récent de studio pour des titres de ce genre. Puis malheureusement, vient la chute, les ventes déclinent, Nakayama quitte le navire et Sony sort sa PlayStation 2 qui reste à ce jour la console la plus vendue de tous les temps, plus de 157 millions d'unités. Sega n'a pas d'autre choix que de capituler. La Dreamcast est sa dernière console. Sega se recycle en éditeur tiers pour les consoles des concurrents. un choix du nouveau président de la société, Isao Okawa, ancien directeur du CSK. Le premier jeu de Sega comme éditeur tiers, c'est la version Game Boy Advance de chez Nintendo de Choo Choo Rocket, très célèbre titre online de la Dreamcast. Sega veut combler des années de pertes et cherche un acquéreur. Le fabricant de pachinko japonais, Semiz, rachète en août 2003 les dernières parts de CSK dans Sega et nomme un nouveau président, Isao Okuchi. L'année suivante, Sega fusionne avec Semiz dans un accord à 1,1 milliard de dollars, faisant de la nouvelle société un des plus gros acteurs, si ce n'est le plus gros, du divertissement japonais. S'ensuit une période d'action en tout genre, allant de la revente de studios pour 24 millions de dollars et le rachat par Sega de la même année de d'autres studios. Pour la mascotte, Sonic n'est désormais plus un concurrent de Mario, avec qui il s'allie même dans une série de Jeux Olympiques dès 2007. Dans le même temps, le marché déclinant de l'arcade oblige Sega à fermer la moitié de ses centres de jeux au Japon et à structurer la division arcade en 2012. Aujourd'hui, Sega retrouve le succès sur mobile et expérimente du côté des jeux web. Ce n'est certes plus le panache d'antan, mais Sega est toujours là. Et quoi que l'avenir lui réserve, elle ne sera pas oubliée. Des millions de fans lui restent fidèles ou nouvellement acquis, tant du côté des adeptes du rétro gaming que des joueurs découvrant des nouveaux titres sur support moderne. Beaucoup d'anciens joueurs regrettent amèrement que Sega ait arrêté de produire des consoles. L'ancien patron Tom Kalinske nous dit être fier de cette époque, de ce qu'ils ont réussi à créer. Megaforce.
Rise from your grave.
La rubrique Le jeu du jour. Aujourd'hui, cher RetroGeek, dans le jeu du jour, un jeu que je vous ai sélectionné, que vous devez impérativement connaître, c'est Axelay sur la Super Famicom, la Super Nintendo japonaise. Un shoot'em up comme on les aime, bien gras, bien tordu et un must du genre. Alors je vais vous faire le pitch, hein. Dès que vous ferez connaissance avec le scénario complètement débile, coutumier de ce genre de jeu, hein, bien sûr. L'action débute sur une planète du système solaire Dilis avec une invasion d'énormes vaisseaux spatiaux aliens venus tout détruire sur leur passage. Un homme et son vaisseau survivent à l'attaque. Ouf, heureusement pour le jeu. Le vaisseau s'appelle Axelay et son pilote Robert, tu parles d'un nom. Ce qui compte, c'est que vous jouez le rôle de Robert, l'homme qui n'a jamais peur de rien avec Starsky et Hutch. Après un écran d'options qui vous permet de reconfigurer votre manette, vous accédez à la sélection de l'armement. Au départ, vous êtes obligé de prendre les trois armes proposées. Allons-y, le Stray Laser pour le pod, le Wound Vulcan pour le side et les macro-missiles pour le bay. Vous découvrirez par vous-même ce que ça signifie. Allez voir l'encart des armes pour plus d'informations. Sachez que lorsque vous atteindrez des niveaux supérieurs, vous aurez accès à des armes plus puissantes. Le premier niveau se déroule dans les airs très haut, au-dessus de la campagne prise dans le brouillard. Le scrolling est de nouveau révolutionnaire puisqu'il consiste en un défilement vertical qui semble se dérouler à partir du haut de l'écran. Ceci donne un petit effet 3D et de perspective qui à l'époque était assez réaliste pour donner l'impression que les ennemis arrivent de loin. Il ne faudra pas seulement blaster tout ce qui se présente devant vous. Il faudra savoir se placer dans des galeries devenues des passages étroits obligatoires dans lesquels il ne faut pas dévier d'un poil de sa route sous peine de se bouffer le décor. Un boss de fin de niveau vous attend, devinez où ? À la fin du niveau, bien sûr. Les niveaux suivants alternent des scrollings de ce type et d'autres horizontaux avec des milliers de plans différentiels et des originalités qui vous feront passer des moments d'angoisse pure. Il est possible de changer d'arme en sélectionnant pendant le jeu l'une des trois armes du début. Il est possible aussi de tirer des missiles en même temps que l'arme sélectionnée. Bon, et les mecs, moi j'y retourne. Hein. Je suis testeur, moi. Non, je rigole. Mon avis sur ce jeu va se résumer en une seule phrase. Waouh, ça arrache. C'est simple. Axelay est très largement le plus beau shoot'em up qu'il m'ait été permis de voir sur cette console. Si l'on excepte ceux des autres consoles. De plus, il est doté d'une scrolling totalement inédite qui assure à donf, comme disaient les jeunes il y a 30 ans. L'impression de trois dimensions rendue par ce dernier est génialissime. D'autant plus que les décors qui apparaissent ne sont pas morts et interviennent également sur le cours du jeu. Les monstres de fin de niveau sont également à la hauteur de l'ensemble, superbement animés, ils pètent la forme et explosent à la tête des joueurs comme une bombe atomique. Ce jeu est doté également d'un scrolling multidirectionnel plus classique, un niveau sur deux. Axelay est incroyablement sidérant de brio. Z Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro-moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine.